Bien, alors on va reprendre 1 Samuel 6, 9. On va commencer par ce verset. Et je vais revenir sur le point précis qu'on a évoqué la dernière fois. André me disait, mais tu en as déjà parlé. Oui, mais je pense que c'est important de reprendre un petit peu les différents moments. Les différents épisodes, on va dire, où l'arche a été entre les mains de différentes personnes. Le coffre de l'Alliance ou l'arche de l'Alliance. Parce que vous allez voir que les événements sont différents. Et on va essayer de voir pourquoi. Alors, dans 1 Samuel 6, verset 9, il est écrit « En ce jour-là, David fut saisi par la crainte du Seigneur. » Pourquoi ? Parce qu'il vient de voir quelqu'un qui a voulu saisir l'arche d'Alliance comme ça, sans réfléchir, et qui est mort. Donc, David, c'est normal, il est complètement affolé, il est effrayé, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, comment le coffre du Seigneur pourrait-il entrer chez moi? Il a peur. Il ne voulut pas prendre le coffre du Seigneur chez lui. Alors ça, c'est amusant, parce que vous allez voir, ce pauvre coffre a voyagé d'une personne à l'autre, parce que les gens avaient peur. Et il le fit conduire dans la maison d'Obed-Edom. Et boum, on le refile chez quelqu'un d'autre, le gathite. Et le Seigneur bénit Obed-Edom et toute sa maison. Ah, David a eu peur et pourtant, là, chez Obed-Edom, ça s'est bien passé. Alors, c'est curieux d'ailleurs comment l'arche de l'Alliance, ou coffre du Seigneur, qui est le symbole matériel de la présence et de la puissance de Dieu, peut sembler être soit une malédiction, soit une bénédiction, un sujet de peur ou de joie. C'est la même chose. C'est toujours le même coffre d'alliance, le même symbole de la présence et de la puissance de Dieu. Et puis alors, les réactions sont très différentes. Alors, est-ce que c'est le hasard? Quand on lit les textes de la Bible comme ça, sans lien, on peut penser, c'est le hasard. Est-ce qu'il y a vraiment une explication? Les voies de Dieu sont insondables. C'est souvent... D'ailleurs, les gens du monde le disent aussi, parfois. Les voies de Dieu sont insondables. Est-ce qu'elles sont vraiment insondables et aléatoires? C'est ce qu'on va voir. Il est clair que les pensées de Dieu sont éloignées des nôtres. Ça, on le sait par expérience. Et la Bible le dit. Mais ce serait triste de voir un Dieu capricieux, qui agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, en fonction de la direction du vent. Ou un Dieu totalement imprévisible. Ce ne serait pas sécurisant. Alors, pourtant, quand on lit ce genre de texte, si on ne fait pas attention au contexte, à sa signification, on peut finir par penser des caprices, c'est des actions complètement aléatoires. Et c'est vrai que Dieu nous surprend, bien souvent, parce que ses pensées ne sont pas les mêmes que les nôtres, heureusement. Et avec notre raisonnement humain et même nos connaissances bibliques, c'est évident qu'on ne peut pas tout expliquer. Heureusement, parce que la Bible, on peut la lire toute sa vie et découvrir des choses nouvelles. Ça, c'est génial. On ne s'ennuie pas. On ne peut pas tout expliquer, car Dieu est Dieu. Puis nous, on n'est pas grand-chose devant Dieu. D'ailleurs, déjà, quand on regarde avec un télescope, on regarde un petit peu l'univers. Cette semaine, j'avais les petits-enfants, donc, et Élise devait préparer un exposé sur... je pense que les élèves de sa classe se sont répartis les différentes planètes, et elle devait étudier Saturne. Et donc, elle a beaucoup travaillé, passé plusieurs jours là-dessus, faire un grand fond avec les milliers d'étoiles, et puis Saturne avec ses anneaux et tout. Et du coup, j'ai cherché un peu dans mes livres. Et simplement, quand on se plonge quelques minutes dans un livre sur l'astronomie, on est bluffé. Dieu a créé tout ça. Et le côté désertique, venté, irrespirable de ces planètes, même Mars, puisqu'en ce moment, on en parle beaucoup, ça nous fait réfléchir. La Terre pourrait être comme ça si Dieu n'avait pas choisi d'en faire cette belle planète bleue, comme les astronomes l'appellent. Voilà, donc quand on regarde tout ça, on se dit, mais qu'est-ce qu'on est? Que suis-je? Et Dieu est Dieu, créateur, etc. Alors, ceci étant, si on compare plusieurs récits qui concernent la présence du coffre, et là, on va faire ce petit travail ensemble, même si j'ai déjà abordé la question la dernière fois, voir les passages qui concernent la présence du coffre du Seigneur en divers lieux. Alors là, on peut avoir quelques éléments de réponse. Je ne dis pas qu'on a toutes les réponses, mais on a des éléments de réponse. Pourquoi l'arche est-elle tantôt une cause de bénédiction et à d'autres moments une terrible malédiction et carrément même une cause de mort ? Même symbole de la puissance et de la présence de Dieu. Et ça, c'est important, parce qu'on parle toujours de Dieu comme un Dieu d'amour, bien sûr. Heureusement, il a donné Jésus pour nous, mais il ne faut peut-être pas oublier que c'est aussi le Créateur Tout-Puissant. Et on n'est pas grand-chose devant lui. Et on n'a pas à se présenter comme lui demandant des comptes, par exemple. Attention aussi à notre façon de prier devant Dieu. Alors dans 1 Samuel 4, on va revenir un petit peu en arrière. On va voir différents épisodes, je crois qu'il y en a 7 si mes souvenirs sont bons, ouais. Premier épisode, 1 Samuel 4. L'arche est utilisée par les Israélites comme porte-bonheur. Ils auraient pu emmener une dent de crocodile ou je sais pas quoi avec eux pour être sûrs de gagner la bataille. Après avoir perdu une bataille, les anciens d'Israël disent, donc 1 Samuel 4, verset 3, « Pourquoi le Seigneur nous a-t-il fait battre par les Philistins ?» Bah tiens, quand on perd, c'est la faute du Seigneur. « Allons prendre à Silo le coffre de l'Alliance du Seigneur pour qu'il vienne parmi nous. » Et puis c'est la suite qui est choquante. « Et qu'il nous sauve de la main de nos ennemis. » Le coffre, qu'il nous sauve. Il dirait encore la présence de Dieu. Non. Alors non seulement ils vont perdre la bataille cette fois-là, mais l'arche va leur être volée. Ah, vous voulez en faire un porte-bonheur ? Eh bien, vous allez voir, votre porte-bonheur, il n'est pas très puissant. C'est qu'un symbole matériel. Il va être volé par les Philistins. Et on avait remarqué la dernière fois qu'on ne manipule pas la présence ou la puissance de Dieu. Les Israélites avaient besoin, en fait, pour gagner la bataille, pas d'un porte-bonheur, pas de la présence de l'arche au milieu d'eux. Mais ils avaient besoin de revenir vers Dieu. Et c'est exactement ce qui va se produire. Et c'est ce qu'ils vont faire sous l'impulsion de Samuel, quelques chapitres plus loin, donc un bon bout de temps après. Au chapitre 7, ils sont nouveau attaqués par les Philistins. Et qu'est-ce que leur dit le prophète Samuel ? « Si c'est de tout votre cœur... » Oh là, on n'est plus dans le contexte d'un porte-bonheur là. « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez au Seigneur, alors supprimez du milieu de vous les dieux étrangers. » Et les Astartés. Donc, ils devaient avoir leurs petites statues, là, les mêmes qu'ils ont ramassées dans les champs, là, après la dernière victoire qu'on a vue il y a 2 semaines. Eux aussi, ils en avaient, quand même, les enfants de Dieu, se balader avec des petites statues d'Astartés, tout ça. On en retrouve, hein, les archéologues en retrouvent au Moyen-Orient de ces fameuses petites statuettes. Décidez-vous pour le Seigneur et servez-le lui seul. Ah, l'exclusivité. Alors, il vous délivrera de la main des Philistins. Est-ce qu'on veut être délivré de tout ce qui nous assaille ? Eh bien, la solution, dit Samuel, revenez vers le Seigneur. Alors, c'est ce que nous, on va appeler la repentance. Mais peu importe le nom qu'on met dessus, l'important, c'est revenir vers le Seigneur. Supprimez du milieu de vous les dieux étrangers, tout ce qui fait idole dans nos vies. Et ça peut être parfois des très bonnes choses. Décidez-vous pour le Seigneur et servez-le lui seul. La recette pour gagner la bataille, c'était celle-là. Ce n'était pas d'emmener le symbole de la présence et de la puissance de Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer ? C'est l'attitude du cœur du peuple qui a changé, qui est plus importante que la présence de Dieu dans l'arche, enfin, le symbole en tout cas. Et ils vont gagner cette bataille. Et là, avec ce premier exemple, on voit que ce qui compte, ce n'est pas le symbole de la présence de Dieu et de sa puissance, c'est le changement de cœur. Et on revient toujours ça avec la parole de Dieu. Et on est lassant à enseigner ça et à essayer de vivre ça, parce qu'en fait, on revient toujours là-dessus. C'est qu'est-ce qui se passe dans le cœur ? Alors l'arche, qu'est-ce qui lui arrive après ? Deuxième épisode. Elle est déposée dans le temple de Dagon, dieu païen des Philistins, j'en ai parlé la semaine dernière. Et puis ben, le lendemain, on retrouve Dagon, la statue de Dagon par terre, et puis on le remet debout, le pauvre, et... Le lendemain, on le retrouve, il a perdu la tête et les mains. Très symbolique, hein, il ne peut plus rien faire. Voilà, il ne peut pas penser. Alors, qu'est-ce qu'on découvre là ? Eh bien, que même si ses enfants sont infidèles, Dieu reste en contrôle. Et il parle un langage que même les païens peuvent comprendre. Vous savez, ils ont compris, les païens, quand ils ont vu Dagon, avec la tête cassée et les mains cassées. Ouh là là ! Ce Dieu d'Israël ! Dis donc, c'est quelque chose, hein ? Il est trop puissant. Donc, qu'est-ce qu'il décide ? On va l'envoyer ailleurs. Tout le monde se renvoie à l'arche. C'est curieux, hein ? Troisième épisode, l'arche est renvoyée d'une ville philistine à l'autre. Alors, ce sont des villes qu'on connaît encore aujourd'hui. Hein. Gaza, etc. Enfin, il y a les villes philistines, ce sont les villes palestiniennes, plus ou moins d'aujourd'hui, hein. À peu de choses près, je crois. Donc, l'arche est renvoyée d'une ville à l'autre. Je crois qu'il y en avait cinq, mais à la troisième, les habitants souffrent de différentes maladies et tout ce qu'ils veulent, c'est s'en débarrasser. Donc, cette arche, qui peut être un symbole de bénédiction, va être un symbole de malédiction. Mais apparemment, ils ne vont pas en mourir, mais ils ont toutes sortes de problèmes, de maladies. C'est une malédiction, ils ont compris, on n'en veut plus. Quatrième épisode, ils le renvoient. Ils consultent leur magicien, il faut un char tout neuf, il faut du respect. Ah tiens, il faut du respect. Ils ont compris une chose. Ce Dieu d'Israël est très puissant. Et il est puissant même en dehors de son pays. Parce qu'à l'époque, on croyait que les dieux d'un pays n'étaient forts qu'à l'intérieur de ce pays. Si c'était le dieu d'une ville, par exemple, il n'était pas compétent pour la ville d'à côté. Ils croyaient ça. Et ils s'aperçoivent que ce Dieu d'Israël, il est fort partout. Même s'il n'est pas dans son peuple. Et même le symbole de sa présence suffit pour que les dieux étrangers soient cassés devant lui, pour qu'il y ait des malédictions dans le pays. Waouh ! Ils ont peur, mais ils ont du respect. Et ils vont le mettre sur un char tout neuf, parce que les magiciens pensent que c'est la bonne chose à faire. Ils vont faire des offrandes en or qui symbolisent les maladies qu'ils ont eues. Et ils le renvoient. En fait, ils manifestent beaucoup de respect. Et vous savez, ce n'est pas souvent qu'un peuple qui a pris du butin va le rendre. On a bien du mal à faire rendre tout ce qui a été volé aux Juifs pendant les holocaustes, les banques, je ne sais pas où ils en sont, j'avais suivi ça pendant un temps, mais tout l'or qui avait été volé, on ne sait pas trop si tout a été bien rendu. Hein. Bon, on ne va pas rentrer là-dedans, mais c'est pour dire que ce n'est pas facile de rendre le butin de guerre. Eh bien là, il n'y avait pas besoin d'accord à l'ONU ou autre, ils ont envoyé. Et ils ont même rajouté des offrandes en or, c'est pas mal. Un grand respect envers ce Dieu qui leur a fait peur, certes, mais qui leur a inspiré une crainte respectueuse. Et c'est curieux, parce que quand même, pour mettre l'arche sur un char neuf, il fallait le porter. Et normalement, il n'y a que les Lévites qui pouvaient faire ça. Ils n'avaient pas de Lévites, les Philistins. Eh bien, il ne s'est rien passé. Personne n'est mort. Pourquoi ? Alors, Ouza, il touche l'arche. Pouf, il meurt. Et à côté de ça, les Philistins, ils ont pu le déposer sur un char neuf, etc. Il lui arrive rien, il leur arrive rien. Eh bien, c'est là qu'on voit le cœur de Dieu. Dieu n'est pas un homme pour changer d'avis, pour tromper ça. Il tient compte du cœur des gens. Il tient compte de leur ignorance. On en parlait ce matin, l'ignorance. Dieu tient compte de notre ignorance. Et ce n'est pas parce qu'on est évangélique qu'il faut croire que tout le monde sera perdu parce qu'ils n'ont jamais entendu parler de Jésus ou parce qu'ils n'ont jamais voulu ceci ou cela. Attention, ce n'est pas à nous d'en juger, c'est l'affaire de Dieu. Et d'autre part, Dieu tient compte de ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. Dieu tient compte de l'ignorance des Philistins. Et ceux qui ont posé l'arche sur le char, avec beaucoup de respect et de peur, j'imagine, il n'aurait rien arrivé. Ah! Tiens, tiens, tiens. La puissance de Dieu n'est pas une puissance aveugle. Ce n'est pas comme l'électricité. Hein. Peu importe qui vous êtes, si vous prenez un truc comme ça, un fil, vous le sentirez passer. La puissance de Dieu n'est pas une puissance aveugle. Alors, cinquième épisode. L'arche arrive à Beth-Shemesh. Oh là, ils sont malins, Beth-Shemesh. C'était une ville de Lévites. Ils ont envoyé les Lévites... chercher l'arche, ils ont fait des sacrifices de reconnaissance avec beaucoup de joie. Ils ont tout fait bien, pas de problème. Vraie bénédiction, hein, l'arche revenait. En tout cas, les ennemis nous renvoient le symbole de la présence de Dieu. C'est fantastique. Mais il y a des Israélites qui étaient moins sérieux. Ils ne tiennent pas compte de la loi de Moïse et ils s'approchent. Et alors, suivant les traductions, on a différents aspects, mais il semblerait que ils étaient plusieurs autour de l'arche à fouiller, à chercher, à toucher, peut-être essayer de l'ouvrir pour voir l'étape de la loi, etc., qui était à l'intérieur. Et ça, ce n'était pas autorisé, c'était clair. Ils vivaient dans une ville lévitique, ils devaient le savoir, mais ils avaient oublié tout ça. Ça ne les intéressait pas, peut-être ils n'y croyaient pas. Et ils n'avaient aucune crainte de la présence de Dieu, de sa puissance. Et il y a des morts. Et là, il y a des morts. Alors que vous avez vu, nos braves Philistins, ils s'en sont tirés sans problème. Donc, Dieu voit le cœur. Et si on lit ce passage-là tout seul, on est scandalisé. Moi, je me souviens, quand j'étais petite et que j'ai lu ça, je me disais, oh, mais alors là, Dieu, je ne comprends pas. Pourquoi il est méchant comme ça avec ces hommes ? Ah bah, il faut bien regarder son texte, hein. D'où l'utilité de lire attentivement, dans le contexte, de chercher le pourquoi, etc. Et là, je pense qu'on a un élément de réponse, même si on n'a pas toutes les réponses. Dieu regarde au cœur, et le cœur de ces hommes était rempli d'un certain mépris, de curiosité malsaine, et il n'y avait pas la crainte de Dieu. Dieu, par sa puissance, avait convaincu les Philistins de rendre l'arche, mais ses propres enfants, eux, avaient agi avec légèreté. Alors qu'ils savaient, parce qu'ils avaient envoyé les Lévites pour prendre l'arche. Mais il y a un petit groupe de gens qui avaient beau savoir, ils n'y croyaient pas. Et c'est important de lire, justement, je me suis renseignée, Beth-Shemesh avait été donnée aux sacrificateurs. Donc les habitants étaient en grand nombre de familles de prêtres, de familles sacerdotales. Donc ils savaient. Vous voyez, c'est important de se renseigner parce que sinon on a l'impression que Dieu est vraiment, vraiment dur. Non, les gens savaient. Cinquième épisode. À la demande des habitants de Beth-Shemesh, ils ont peur après ça, à chaque fois les gens ont peur. Hein. Ils appellent les gens de Kiryat Jearim pour qu'ils viennent chercher l'arche. Hein. C'est toujours les autres qui doivent s'en occuper. Et ils la déposent chez un certain Abinadab. Et Éléazar, son fils, est consacré pour garder le coffre, pour le surveiller. Et je crois que c'est d'ailleurs ce site qui vient d'être découvert par les archéologues. Et effectivement, c'était important de bien l'installer parce qu'il est resté 20 ans à cet endroit-là. Donc ils ont certainement, comme on a vu sur le document archéologique, ils ont installé visiblement un sol particulier, ils l'ont protégé en cas de vol, etc. Oui, c'était devenu un lieu de culte de l'Éternel. Donc, ils ont agi avec crainte de l'Éternel, avec respect, en obéissance à la loi qu'ils connaissaient. Et il y a eu 20 ans sans problème. Pas de malédiction, pas de malade, pas de problème. Ils l'ont déposé là, pas de souci. Et puis, sixième épisode. L'arche est transportée sur un chariot neuf. Oh, quelle idée il a eue, là, David. Ben, il a refait ce que les Philistins avaient fait, puisque ça avait bien marché chez les Philistins. Oui, mais lui, il n'était pas Philistin. Lui, il connaissait, il était supposé, en tant que roi d'Israël, connaître la loi de Moïse. D'ailleurs, vous allez voir qu'après, il va la connaître. Hein. Mais il fait comme les Philistins, puisque ça a bien marché, chariot neuf, et puis bon, manque de peau, le chariot, il bouge un peu. Et puis, Baouza, qui était le petit-fils donc d'Abinadab, cherche à rattraper l'arche, il s'en empare, comme si c'était n'importe quelle grosse boîte. Puis il meurt. Et là, pour David, ça a été une catastrophe. Ouza meurt, David ne veut plus emmener l'arche à Jérusalem. Et on retrouve le même problème. Oh, on n'en veut plus. Enfin, ça fait un moment qu'elle voyage, hein. On en est au sixième épisode, là. Alors, il y avait des obéissances de gens qui savaient. Copie des Philistins, ce n'était pas une trouvaille. Le coffre est traité comme un objet ordinaire. Alors, on fait une fête, on fait de la musique. Il y a énormément de joie, de danse. Tout ça devait accompagner l'arche, mais on avait oublié un élément. La solennité, le respect, c'est à quelque chose de solennel. Alors évidemment, dans les cérémonies religieuses d'Occident, donc là on est 3000 ans après, on a peut-être abusé de la solennité. Hein ? Dans tous les domaines, la gestuelle, la musique, les bâtiments, voilà, on en a tellement abusé qu'à la fin les gens sont dégoûtés, ils voient un Dieu très très lointain, et puis bah, il n'y a plus de proximité, il n'y a plus rien. Voilà, on tombe d'un extrême dans l'autre. Mais là, il y avait la fête, il y avait la joie, c'était formidable, mais il n'y avait pas le respect et l'obéissance. Ah ! Eh bien, j'ai pensé à Ouza. Je me suis dit quand même, le pauvre, le petit-fils, il a vu l'arche pendant 20 ans. Eh bien, justement, c'est ça le problème. Il a vu l'arche pendant 20 ans, chez lui. Il a vu ce coffre chez son père, chez son grand-père. C'était devenu un objet comme un autre, précieux, certes, puisqu'on lui avait fait un bâtiment spécial. C'est normal, il ne veut pas qu'il soit secoué dans le chariot ou qu'il tombe, mais il a oublié qu'est-ce qu'il y avait derrière, le symbole de la présence de Dieu, le symbole de sa puissance au milieu de son peuple. Il était tellement habitué à le voir, ce truc. C'était devenu un truc, un objet précieux, c'est tout. Puis 20 ans, vous imaginez avoir l'arche chez vous pendant 20 ans ? Oh là, le premier mois, c'est terrible. Le deuxième mois, ben, on s'habitue. Et puis au bout de 20 ans, Il fait partie des meubles. Et Ouza, il voyait plus ce qu'il représentait, l'arche. Il voyait plus, tellement habitué à le voir, il n'en appréciait plus l'importance. Et c'est là que j'en appelle aux enfants de chrétiens, que vous ayez 10 ans, 15 ans, 20 ans, ou 40 ou 50 ans. Attention, quand on est enfant de chrétien, c'est mon cas, on est tellement habitué. On nous parle de la crucifixion de Jésus. Oh oui, on entend ça à l'école du dimanche, on entend ça à la maison, on entend ça. On nous parle de la grâce de Dieu, du pardon de Dieu. Oui, on connaît. Et on a l'impression, en plus, de tout connaître. Et c'est quand j'ai commencé à creuser ma Bible, je me suis rendu compte de tout ce que je ne savais pas. Et on dit d'ailleurs que les plus grands savants, vous avez dû entendre ça, c'est ceux qui sont conscients de ce qu'ils ne savent pas. Pas ceux qui sont conscients de ce qu'ils savent. Et je crains que nous, enfants de chrétiens, on est en danger parce qu'on a l'impression de savoir tellement de choses. L'impression de tout savoir. Et si on n'évangélise pas, eh bien on est en danger. Parce que quand on évangélise, on revit la beauté de la découverte de Jésus. Et ça, moi, c'est quelque chose, c'est pire qu'une drogue, c'est quelque chose de... je sais pas, je donnerais de l'argent pour ça, quand on peut amener quelqu'un à connaître Jésus. Et que vous le voyez demander pardon pour ses péchés et recevoir cette joie, cette paix qu'il n'avait jamais eue. Waouh, c'est fantastique. Et là, on comprend. Parce que nous, enfants de chrétiens, on n'a pas forcément vécu un noir-blanc comme ça, les ténèbres, la lumière. Parce qu'on a été élevé dans une famille chrétienne, on a appris à prier dès qu'on a appris à parler, on a appris à chanter les cantiques, à lire notre Bible, etc. Et du coup, on est en danger, parce qu'on a vécu dans un cocon. Alors, on ne va pas mettre nos enfants dans des orphelinats, hein, mais le problème, c'est que du coup, on est rodé, on est habitué comme Ouza. Mais cette arche, on la voit depuis 20 ans. Elle est belle. Oh là là, je la vendrai pas. Hein, je la garde. Mais il y a plus cette crainte de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Et il faut évangéliser. Parce que justement, dans ces moments-là, on revit. On revit la puissance, la grâce de Dieu, le pardon, l'amour de Dieu. Pas que pour ça, bien sûr. Mais c'est ça qui nous aide aussi, nous, enfants de chrétiens. Hein, nous, enfants de chrétiens, on a quand même ce souci. Hein. Quand je vois mon expérience par rapport à celle d'André, quand je vois mon expérience par rapport à Marie-France, par exemple, qui a vécu quelque chose de très beau, c'est vrai que nous, on n'a pas forcément traîné nos galoches dans des grosses difficultés, etc. Et il n'y a pas eu ce noir-blanc. Bien sûr, il y a eu des expériences. Et Dieu nous parle et nous apprend plein de choses. Mais attention à l'esprit pharisaïque qui nous guette, nous, enfants de chrétiens. On sait, on a déjà entendu ça. Prenons toujours autant de plaisir à entendre que Jésus a donné sa vie pour nous. Prenons toujours autant de plaisir à entendre qu'il a payé notre dette et qu'on est capable de faire d'énormes bêtises parce que c'est pas parce qu'on est enfant de chrétien qu'on n'en fait pas et que Dieu est quand même là pour nous pardonner. Hein ? Et là, j'y tiens parce que je sais que c'est un problème. Pourquoi souvent les deuxième, troisième, quatrième génération de chrétiens, ça se dissout dans la nature, ça retourne à n'importe quoi, l'athéisme, n'importe quoi. Mais parce que justement, il y a eu ce côté, je suis habitué. Ne nous habituons pas au sacrifice de Jésus. Et c'est pour ça qu'il faut lire la Bible et qu'il faut partager l'évangile. C'est une bonne nouvelle. Donc voilà, le problème pour les enfants de chrétiens, c'est donc la légèreté, l'irrespect. Et parfois, ça va jusqu'à la moquerie. Alors, je me souviens avoir dû traiter ça avec un jeune étudiant de faculté de théologie. Parce que finalement, c'est des lieux où on se moque beaucoup. Parce qu'on aime bien rigoler, c'est normal, ils sont jeunes. Mais ça m'a toujours choquée, surtout quand on était au GBU et on était entre étudiants. Et bon, dans les autres matières, il n'y avait pas tellement cette moquerie. Mais dans la théologie, ouh! Bah parce qu'il y a cet esprit un peu pharisien, où on sait tout et on peut se permettre de rigoler de tout. Et je crois qu'il y a une bénédiction qui est liée à honorer, que ce soit les parents, que ce soit d'autres gens. On a fait avec une, là, les uns les autres, hein, le message sur les uns les autres, user de prévenance réciproque. Et je pense qu'il faut se méfier de la moquerie. Psaume 1, hein, on ne s'assied pas sur le banc des moqueurs. Attention, je pense que c'est pas parce qu'on aime rire, et je suis la première à aimer rire, vous le savez, et à mettre les gens en boîte. Marie-France en fait souvent les frais. Sylviane aussi de temps en temps. J'aime bien rigoler, j'aime bien taquiner les gens, etc. C'est bien de rire, c'est important. Les chrétiens doivent trouver du plaisir à rire et s'exprimer, bien sûr. Mais attention, pas de n'importe quoi. Et pas de n'importe qui, et pas n'importe comment. Par exemple, je dis toujours aux enfants, et je ne sais pas si les grands m'écoutent là, mais on ne se moque pas de la prière des autres. Chacun a sa façon de prier. Chacun utilise son vocabulaire. Et évidemment, pour un enfant, c'est rigolo. Il n'utilise pas les mêmes mots, ou il n'a pas les mêmes inflexions de voix que papa et maman, ou que dans mon église. Ben, ce n'est pas une raison pour rire. Ben, c'est embêtant quand même. Je le demande toujours aux enfants aussi de respecter la sincérité enfantine. Et il n'y a pas que les enfants, hein. Mais je pense aux enfants parce que c'est quelque chose qu'on doit leur répéter souvent. La foi enfantine aussi, très belle. Et ce n'est pas un sujet de rigolade. Je pense qu'il y a ce côté, quand je parle de solennité, je ne parle pas de grands rituels. Je parle de prévenance, de respect. Hein. Et je pense que Ouza avait perdu tout ça. Je dirais, si je ne faisais pas de problème chronologique, je dirais que c'était un enfant de chrétien, quoi. C'était un petit enfant de chrétien. Son père, son grand-père Abinadab, son père Éléazar, voilà. Oh oui, on connaît tout ça. Gardons de la fraîcheur par rapport à notre foi. Et j'aime quand je vois des gens très âgés, plus que moi encore, qui ont gardé la fraîcheur de la foi d'un enfant ou la foi d'un nouveau. C'est, je sais pas, ça fait du bien. Alors, 7e épisode, le coffre reste 3 mois chez ce monsieur, Obed-Edom. On pense que c'est un Lévite, il n'y a rien qui le dit dans le texte, mais d'après où il habitait, etc. Et puis on va le retrouver plus tard dans d'autres citations, donc on pense que c'est un Lévite. Eh bien, chez Obed-Edom, non seulement il n'y a pas de problème, mais lui et toute sa famille sont bénis pendant 3 mois. Et là, vous devinez bien, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, c'est son cœur. Il obéit, il traite l'arche avec respect. Il le voit non pas comme un objet, mais comme la présence de Dieu qui est symbolisée par quelque chose de matériel. Et du coup, chez Obed-Edom, ça se passe bien. Donc voyez qu'en fait, on n'a pas là des caprices de la part de Dieu, ni des choses incompréhensibles. Mais simplement, tout dépend du cœur des gens qui étaient proches de l'arche. C'est peut-être pas le seul élément de réponse, mais pour moi, c'en est un très important. Avec ces 7 épisodes, on ne comprend pas tout, mais on réalise que Dieu regarde au cœur, à l'obéissance, à la crainte respectueuse que manifestaient les gens. Que Dieu, la gloire de Dieu, ne dépend pas des circonstances et que même l'arche volée, ça ne pose pas de problème à Dieu. Oh, les enfants d'Israël étaient là, oh, on nous a volé l'arche, on est perdu, etc. Dieu n'a pas besoin d'être défendu, c'est le créateur de l'univers. Il y a des nouvelles traductions d'ailleurs qui l'appellent le maître de l'univers. Eh bien oui, donc il n'a pas besoin de nous, il a choisi qu'on collabore avec lui, mais il n'a pas besoin de nous. Il manifeste sa force et sa gloire face aux idoles. Dieu reste Dieu même quand son peuple l'abandonne. Dieu reste Dieu même quand son peuple l'abandonne. Ça c'est magnifique. Dieu tient compte de l'ignorance de la loi chez les Philistins, mais ne justifie pas le fait de les imiter. Ok pour les Philistins s'ils agissent comme ça, mais toi David, franchement, non là, hein, tu exagères. Et puis Dieu, et c'est ça qui nous touche, nous chrétiens, Dieu attend beaucoup plus de ceux qui le connaissent. Aïe. Ce qu'il va laisser passer chez un non-chrétien, il ne le laissera pas forcément passer chez nous, parce qu'on sait. Et ça, ma mère disait toujours, si un non-chrétien fait du 150 au lieu de 110, il ne sera pas forcément arrêté systématiquement. Mais si il y a une foule sur l'autoroute et qu'un chrétien fait du 150, il y a de fortes chances que ce soit lui qui soit arrêté. C'est peut-être pas toujours vrai, mais j'ai remarqué quand même que quand on sait, Dieu est souvent plus strict avec nous quand on sait qu'il ne faut pas le faire. Ah oui, c'est Billy Graham qui disait ça. Quand vous dépassez les limites de vitesse, Jésus sort de la voiture. C'était une plaisanterie de Billy Graham. Alors, Vous allez me dire, mais tout ça, c'est des histoires de l'Ancien Testament. L'arche, on ne sait pas où elle est, perdue, détruite, cachée, on ne sait pas. Peu importe ce que dit Indiana Jones. Mais nous, on n'est plus dans l'Ancien Testament, on n'est plus dans cette ancienne alliance. Ah non ? Ah, mais là, je vais répondre comme Jésus avait répondu. Ben non, c'est encore plus exigeant. C'est encore plus exigeant. Parce que dans la Nouvelle Alliance, l'Esprit de Dieu habite dans nos cœurs. C'est nous qui sommes le temple du Saint-Esprit. Je crois. Hein. Notre alliance avec Dieu a été scellée, et pas par n'importe quoi, mais par le sang de Jésus versé à la croix. L'Esprit de Dieu habite aussi dans le corps local qui est l'Église. Il habite aussi dans l'Église universelle, corps de Christ. Ah, donc il est sans cesse avec nous. Et quand on est chrétien, la présence de Dieu est avec nous. Et cette présence de Dieu est toujours la même. Et on va retrouver les mêmes problèmes qu'avec l'arche. Oh non, et si ? Cette même puissance qui a ressuscité Lazare, c'est la même qui, quelque temps après, va tuer Ananias et Saphira, qui ont menti à l'Esprit de Dieu. C'est cette même puissance qui a fait tomber Paul de son cheval, alors qu'il était prêt à persécuter les chrétiens à Damas, qui lui a fait entendre la voix du Seigneur, qui l'a rendu aveugle. Waouh ! C'était autre chose que l'arche, là. Mais c'est aussi cette même puissance qui va lui rendre la vue, qui va transformer sa vie, qui va en faire un disciple et un apôtre extraordinaire. Qu'on lit encore, 2000 ans après. C'est cette même puissance qui accompagne les disciples de Jésus et qui, de tout temps, a confirmé le message de l'Évangile. Et je dis bien de tout temps, par des signes et des miracles. Et je pense que si on est un petit peu comme les enfants d'Israël, et on se dit, ah, on n'en a pas assez, je suis la première à le dire, de signes et de miracles, les signes étant des miracles qui parlent aux gens de Jésus, hein. Eh bien, c'est peut-être qu'il ne faut pas se contenter de mettre l'arche au milieu de l'armée, mais revenir vers le Seigneur. Message de Samuel. Et avoir du respect pour cet esprit qui habite en nous. David, voyant que Obed-Edom est béni de Dieu, bah lui, il a bien compris la leçon, il va chercher le coffre de Dieu avec joie. Ah ah, comment ça se fait ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, il s'est passé 3 mois, et David, ben, il a dû consulter la loi. On le voit après, vous allez voir. Ah là là, cette fois-ci, il sait ce qu'il faut faire, mais il va le faire. Il ne va pas prendre les choses à la légère. Et là, je trouve que David nous donne un modèle de foi et de vie, même de vie chrétienne, avant la lettre, parce que vous allez avoir tout. La joie, la musique, la fête, et le respect, la solennité. Et ça, c'est extraordinaire. Alors moi, j'admire le cœur de David, d'abord, parce qu'il ne discute pas avec Dieu. Il a compris, hein, parce qu'il n'y a pas de récrimination. Moi, j'aurais peut-être dit, mais pourquoi Obed-Edom, il n'a que des bénédictions ? Et puis Ouza, là, il est mort quand il a touché l'arche. Pourquoi il est béni ? Et pourquoi ma cérémonie de retour de l'arche a été complètement gâchée par cette mort ? Hein, ça, c'est humain, hein ? Mais il n'a pas fait ça. Il a la crainte et le respect de Dieu. Et vous savez pourquoi ? Je crois que David savait qui était Dieu et qui il était lui. Dieu, tout-puissant, créateur. Et nous, poussière. Il a compris la leçon et c'est avec joie qu'il revient vers le Seigneur. Et vous savez, je crois que la repentance, le fait de revenir vers le Seigneur, je ne parle pas de faire dégrainer la liste de nos péchés au confessionnal, hein. Je parle vraiment de revenir vers le Seigneur, ça crée de la joie. Et si on manque de joie dans notre vie chrétienne, ben c'est le moment ou jamais. Seigneur, je reviens vers toi. Je veux lâcher tout ce qui me freine, mes idoles en tout genre, etc. L'utilisation de mon temps. Et parfois, on est surpris du temps qu'on peut passer devant les écrans. Alors autrefois c'était facile, c'était la télé, on l'éteignait, etc. Mais maintenant il y a le téléphone, il y a des tablettes, etc. Ça peut devenir une idole qui prend énormément de notre temps. Alors, il a compris la leçon, il revient avec joie vers le Seigneur et on va lire donc 2 textes. Alors pourquoi 2 ? Parce que vous avez la même histoire qui est reprise dans 2 Samuel et dans le livre des Chroniques. Et moi j'aime bien ça parce que je cherche toujours des détails. Les femmes aiment bien les détails. Et puis, bah, j'en trouve des détails quand je fais les deux textes. Et je vous conseille ça quand vous lisez une histoire dans Les Rois ou dans Samuel. Allez voir si elle existe aussi dans les chroniques. Elles n'y sont pas toutes, mais elles y sont souvent. Et là, vous avez des détails supplémentaires qui éclairent le texte. Donc profitez-en, c'est comme avec les évangiles, hein, la même histoire racontée par quatre évangiles, c'est passionnant, on voit les choses avec un angle différent. Donc 2 Samuel 12 à 19, 12 à 19 compris, c'est le chapitre 6, oui, j'avais oublié de mettre le chapitre. Pour moi c'est évident, mais voilà, oui, 6, 12. On dit au roi David, le Seigneur a béni la maison d'Obed-Edom et tout ce qui lui appartient, donc la prospérité en plus, à cause du coffre de Dieu. Ah tiens, ils avaient compris. Alors David se mit en route et dans la joie, il fit monter le coffre de Dieu depuis la maison d'Obed-Edom jusqu'à la ville de David, donc Jérusalem. Quand ceux qui portaient le coffre du Seigneur eurent fait 6 pas, ils sacrifiaient un taureau, une bête grasse. David dansait de toute sa force devant le Seigneur. David portait un éphod de lin comme un pagne. C'est un détail important. David et toute la maison d'Israël firent monter le coffre du Seigneur avec des acclamations au son de la trompette. Comme le coffre du Seigneur entrait dans la ville de David, et là on va s'arrêter parce que l'épisode de Milka, ça ne sera peut-être pas pour aujourd'hui. Par contre, on va prendre 1 Chronique 15. Donc voilà, on revient à 1 Chronique 15 qui lui nous donne beaucoup plus de détails, plus qu'on en veut d'ailleurs. Donc c'est pour ça que je vais sauter ce qui est le moins important. 1 Chronique 15, versets 1 à 4. David se fit des maisons dans la ville de David. Il prépara un lieu pour le coffre de Dieu. Ah, il ne l'emmène pas n'importe comment. Il a déjà préparé un lieu d'accueil. Ça, on ne le savait pas dans l'autre texte. Et il a dressé pour lui une tente. Pourquoi une tente? Eh bien, parce que dans le désert, Moïse avait installé une tente, un tabernacle, pour abriter l'Arche de l'Alliance et pour d'autres, pour les sacrifices, etc. C'est alors que David dit, le coffre de Dieu ne doit être porté que par les Lévites. Tiens. C'est marrant, mais il a bien compris. Hein. Car c'est eux que le Seigneur a choisis. Ah, c'est pas parce que c'est un rite, c'est parce que c'est un choix de Dieu. C'est eux que le Seigneur a choisis pour toujours, afin qu'ils portent le coffre du Seigneur et qu'ils officient pour lui. David rassembla tout Israël à Jérusalem pour faire monter le coffre du Seigneur au lieu qu'il lui avait préparé. Et cette fois-ci, il réunit pas les anciens, l'armée et tout ça, comme il avait fait la dernière fois. David réunit les fils d'Aaron et les Lévites, les gens qui étaient consacrés au service de Dieu. Et puis alors, vous avez les fils de Kehat, les fils de Merari, Gershom, Élisaphan, Hébron, Uziel. Bon, ok, c'est pas forcément des choses qui nous parlent, mais on voit qu'il y a plusieurs familles qui étaient consacrées au service de Dieu. David appela les prêtres, Sadoc et Abiathar, et les Lévites. Il leur dit, vous êtes les chefs de famille des Lévites, consacrez-vous. Alors même les Lévites avaient un rituel de consécration à Dieu. Vous et vos frères, et faites monter le coffre du Seigneur, le Dieu d'Israël, au lieu que je lui ai préparé. Parce que vous n'étiez pas là la première fois. Ah tiens, voyez ce petit détail. Vous n'étiez pas là, et il est conscient. Et le Seigneur notre Dieu a causé des pertes parmi nous. C'est bien qu'il le reconnaisse. Il a désobéi. Et il y a eu des problèmes. C'est bien qu'il l'ait dit. Les prêtres et les Lévites se consacrèrent. Alors c'était toute une cérémonie, hein, je ne vais pas la détailler, mais il y avait une cérémonie qui marquait clairement qu'on se mettait à part, qu'on se purifiait pour servir le Seigneur. C'est une question d'honneur envers Dieu. Ce n'est pas une question de rite, un rite sans rime ni raison. Hein. C'était vraiment, ça avait un sens. Pour faire monter le coffre du Seigneur, le Dieu d'Israël. Les Lévites portèrent le coffre de Dieu comme Moïse l'avait ordonné, d'après la parole du Seigneur, voilà, c'est clair, hein, sur leurs épaules avec des barres. J'aime bien quand les choses sont précises. Et là, on a la réponse, pourquoi Ouza, pourquoi ça s'est mal passé. Alors, ensuite, on a donc jusqu'à 15 et ensuite 22 à 24. Je vais quand même lire rapidement. David dit au chef des Lévites de mettre en place leurs frères, les chantres avec des instruments de musique. Et là, vous avez la liste de tous les chantres. Et d'ailleurs, à la fin de, au cours du chapitre 16, en tout cas, vous avez un verset qui va vous dire quelque chose. C'est en ce jour que David chargea pour la première fois Asaph et ses frères de célébrer le Seigneur. Et si vous avez lu les psaumes, vous voyez que souvent c'est écrit, psaume de David, mais souvent aussi psaume d'Asaph. Eh bien, il est là, dans cette histoire, chargé de célébrer le Seigneur avec des chants. Ensuite, on va prendre 22 à 24. Kenania, chef des Lévites pour le transport, dirigeait le transport. J'aime bien ce verset, il est marrant. Dirigeait le transport car il était compétent. Même pour le transport, on prenait des gens compétents. Et Béraka et Elkana étaient portiers du coffre. Enfin, tout était prêt. Il y avait les chantres, les portiers, les porteurs, les gens chargés du transport, etc. Alors, la lecture de ces deux textes nous permet, comme je disais tout à l'heure, d'avoir une image complète de cette extraordinaire fête. Vous pourrez le lire dans le détail. J'ai donné juste les endroits les plus importants. En l'honneur du Seigneur, en l'honneur du retour du coffre de l'Alliance sous la tente qui doit l'abriter. Alors, ce qui s'est passé, c'est que David, il est heureux d'apprendre que ça s'est bien passé chez Obed-Edom. Il est béni. Et pour David, ça signifie que Dieu n'a pas rejeté son peuple. Et ça, c'est important. Et son roi, malgré leurs inconséquences. Cette fois, il a compris qu'on ne traite pas la présence de Dieu n'importe comment. Et ça, c'est important. Je suis gênée parfois quand il m'arrive d'entendre, pas dans notre église, mais dans d'autres lieux, des prières très exigeantes envers Dieu. Je suis très gênée. Parce que Dieu nous aime, mais où est l'honneur qui lui est dû? Et il faut être prudent. C'est vrai qu'on peut prendre autorité sur des mauvais esprits, etc. Mais attention quand on s'adresse à Dieu, je pense que c'est important. Et David a compris qu'on ne traite pas la présence de Dieu n'importe comment. Il a visiblement relu la loi, on l'a vu, hein, et il a remis les Lévites dans leurs responsabilités. Et il commence, vous avez vu, par réunir les fils d'Aaron et les Lévites. C'est des familles qui étaient mises à part pour le service de Dieu. Je ne vous donne pas tous les détails, mais ça vous pouvez retrouver dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans les Nombres en particulier. Tabernacle, coffre de l'Alliance, sacrifice, tout ça devait être géré par les Lévites. J'avais remarqué, verset 12, « Consacrez-vous et faites monter le coffre du Seigneur au lieu où je lui ai préparé, parce que vous n'étiez pas là, on l'a remarqué tout à l'heure. » Et au verset 2, David dit « Le coffre de Dieu ne doit être porté que par les Lévites, etc. » On l'a lu tout à l'heure. Et vous allez me dire « Ah mais tout ça, c'était des lois de l'Ancien Testament. Maintenant, on a accès direct au trône de Dieu. Le voile a été déchiré au moment de la crucifixion de Jésus. » Maintenant, la Bible dit, et le Nouveau Testament dit, que nous sommes un peuple saint, un sacerdoce royal. Nous sommes le temple de l'Esprit de Dieu. Je redirai ce que j'ai dit tout à l'heure. Maintenant, ce n'est pas que les Lévites qui doivent se consacrer à Dieu. C'est nous tous. La nouvelle alliance est plus exigeante. C'est chacun d'entre nous. Et saint, encore une fois, ça veut dire mis à part et consacré à. Ça ne veut pas dire parfait. Ça veut dire mis à part et consacré à. C'est dommage qu'on ait changé le sens de ce mot. C'est chacun qui est appelé à ne pas se conformer à ce qu'ont fait les Philistins. C'est-à-dire, et là vous avez le verset dans Romains 12, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre pensée. » Nous ne sommes pas appelés à copier les façons de faire et de penser de notre société, la société qui nous environne, comme David a imité les Philistins. Ou même la façon de gérer nos professions, nos familles, notre Église, avec d'autres valeurs que les valeurs du royaume de Dieu. C'est exigeant. La nouvelle alliance est exigeante. Et je pense que j'en reparlerai, mais cette semaine, on m'a parlé de la volonté d'un certain mouvement de supprimer ces annexes pour acheter des grands locaux, parce que ça fait mieux. Il y a des tas de gens qui ne vont plus pouvoir aller à l'église parce qu'ils sont trop âgés ou ils n'ont pas de véhicule, mais ce n'est pas grave. On va avoir une belle église qui en jette les valeurs. Attention, est-ce que ce sont les valeurs du royaume de Dieu où chaque individu est important? Où Dieu nous aime chacun? La rentabilité des petites églises, est-ce un moyen de gérer la situation? Est-ce qu'il faut appliquer les valeurs modernes, économiques, numériques? Est-ce qu'il faut des messages plus politiquement corrects? Pas trop d'allusions à la Bible? Et surtout pas la justice de Dieu, ça fait mauvais effet. Prospérité, le succès à tout prix, les apparences, tout ça ce sont des valeurs qui sont en vogue dans notre société. Est-ce qu'on doit les appliquer à la vie de l'Église locale ou universelle? Nos coutumes nationales ou familiales? Est-ce que c'est ça les valeurs du royaume de Dieu? Et c'est difficile. Dieu est exigeant envers ses enfants. Dieu est exigeant, plus que dans l'Ancien Testament encore. Observer les valeurs du royaume de Dieu et les appliquer dans notre vie de famille, notre vie d'église, notre travail, c'est difficile. Et pourtant, combien de chrétiens qui ont appliqué ces valeurs dans leur travail sont devenus des gens extrêmement célèbres. Et je sais que Hélène pourrait nous faire une liste, et je pense que ça vaudrait la peine, de tous ceux qui ont appliqué ce siècle même, on va dire 20 et 21e siècle, qui ont appliqué les valeurs du royaume de Dieu dans leur travail et qui sont devenus des gens célèbres, respectés. Je crois que notre monde a besoin de ça. C'est ça, revenir à Dieu et à ce que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous. D'ailleurs, dans nos réunions de prière, ce sera un sujet de prière parce que c'est dur pour les gens de voir leurs églises disparaître pour avoir un grand local qu'on va peindre en noir et on va mettre la sono à fond. Parce que c'est ce qui se fait en ce moment. Attention, tous ces gens qui ne vont plus pouvoir aller à l'église, parce que c'était agréable pour eux d'avoir une église dans leur quartier. Ils étaient 50, 60. Et dans la ville à laquelle je pense, il y en a plusieurs comme ça, une dizaine, qui vont être supprimés, normalement, si Dieu n'intervient pas, pour avoir un grand big local qui en jette. Attention. Pour les Peter Schmitt à Mulhouse, je crois que c'était la volonté de Dieu. Et Dieu l'a montré parce qu'ils ont eu des luttes, des procès. Et même pendant un temps, pas un seul avocat qui a voulu les défendre. Ils ont finalement trouvé un. Là, ce n'était pas juste pour chercher la gloire, c'était l'appel de Dieu pour cette église. Et merci Seigneur pour les grandes églises. Amen. Qu'elles soient bénies, qu'elles prospèrent à tous égards. Mais ce n'est pas forcément l'appel de tout le monde et ça ne doit pas se faire aux dépens des petites églises qui marchent bien et qui marchent avec le Seigneur. Bon, c'est un problème particulier, j'en reparlerai peut-être, mais prions pour que ces valeurs de la société, ces valeurs économiques, numériques, ne viennent pas prendre la place de l'Esprit de Dieu. Et ce que Dieu appelle à un, il ne l'appelle pas forcément pour l'autre. Il a un plan pour chacun de nous. Alors, on est impressionné dans l'histoire de David, là, par la mise en place des différents services. Vous avez vu les chantres, ceux qui jouent des instruments, les portiers, les lévites responsables du transport, et ça, c'était vraiment amusant quand même. Il fallait qu'ils soient compétents pour organiser le transport. Bah oui, c'est normal, hein, quand vous avez une foule avec des milliers de gens comme ça, vous avez vu que dans les manifestations, comme c'est difficile de canaliser les gens, etc. C'était une organisation imposante et ça me fait penser à 1 Corinthiens 14, 40, que tout se fasse avec ordre et bienséance. Cette fois-ci, il y avait une explosion de joie, il y avait de la musique, il y avait des danses, mais il y avait de l'ordre et de la bienséance. C'est curieux, hein? Et John Wimber disait toujours, on peut lire ce verset de différentes manières. On peut le lire en disant que tout se fasse avec ordre et bienséance. Ce n'est pas forcément la bonne manière. Mais il y a cette lecture que tout se fasse avec ordre et bienséance. Et on peut mettre l'accent sur tout, que tout se fasse. Et on voit que David fait tout. La musique, l'adoration, les danses, les instruments, le transport, l'organisation générale. Et ça n'empêche pas l'esprit d'agir et un Asaph d'être inspiré par l'esprit. Au contraire. On veille au respect, en fait, des uns des autres, au respect de Dieu, au respect du coffre de l'Alliance qui abrite sa présence. Et on évite aussi la cacophonie. Vous imaginez des milliers de gens comme ça, qui chantent, qui dansent, qui sautent, qui jouent des instruments? Ça pourrait être une cacophonie épouvantable. Et je crois, alors bon, c'est peut-être moi, hein, mais je pense qu'il y avait une harmonie. Parce qu'il y avait de l'ordre et de la bienséance, parce que les choses étaient bien organisées, de façon à ce qu'on puisse s'entendre les uns les autres, qu'on puisse louer Dieu ensemble sur la même note. Et tout était coordonné. Et ça, c'était un gros travail. Mais il a réussi à mettre en place, avec les chefs des Lévites, les gens qui conduisent le chant, qui conduisent les instruments, verset 21, vous voyez que tout est organisé. Et tout cela ne va pas empêcher les chants inspirés. Chronique 16, 7 dit, c'est en ce jour que David chargea pour la première fois Asaph et ses frères de célébrer le Seigneur. Ça n'empêche pas la joie de la célébration. Et on est loin du rituel religieux, hein. Honnêtement, vous allez voir que même ça va coûter cher à notre pauvre David qui chante et qui danse. Ça n'empêche pas la joie de la célébration, au contraire, parce que dans l'ordre, la célébration peut prendre une dimension extraordinaire. Et tout le monde peut rentrer dedans, personne ne se sent à l'écart. Et puis, on évite aussi les débordements incontrôlés qu'on trouve évidemment dans les fêtes païennes. Ça, je ne vous fais pas de dessin. Lisez dans les livres d'histoire les fêtes païennes, c'était terrible. Mais là, il arrive à joindre, et ça, je trouve ça formidable dans ce texte, et je vais m'arrêter là. Il arrive à joindre l'organisation, la participation de chacun, même les gens du transport, et une harmonie. Et que la présence de Dieu soit honorée, que Dieu soit loué, et que des gens comme Asaph puissent, j'imagine, créer des chants. Et on va lire les psaumes juste après, on les lira la prochaine fois. On peut adorer Dieu en étant entendu, en respectant les uns les autres. Alors là, je trouve que c'est un haut fait, parce que ce n'est pas évident. Mais David a réussi ce tour de force parce qu'il s'était préparé. Pendant ces 3 mois, il est revenu à la parole de Dieu. Il a regardé ce qui devait se faire. Et il a préparé, je trouve qu'il a préparé ce retour de l'arche. Et n'ayons pas peur d'une bonne organisation dans la mesure où elle est soumise à Dieu, dans la mesure où elle respecte la parole de Dieu et où Dieu peut être vraiment honoré. Le problème, c'est que dans nos sociétés occidentales, le rituel, l'organisation du rituel a remplacé l'attitude du cœur. Et là, c'est une catastrophe. Même le meilleur des rituels, le mieux organisé, n'apportera que de la glace, n'apportera rien de chaud, de vivant. Hein? Mais il faut que l'organisation serve à ce que tout le monde puisse entrer dedans, que tout le monde puisse louer Dieu, que les cœurs puissent s'exprimer. Et je trouve que David a réussi là un truc formidable. Et on va voir que lui, en plus, il avait bien tout préparé et il va danser, chanter. Et ça va lui créer quelques problèmes, mais ça fait rien. Il s'exprime pour la gloire de Dieu et on va voir comment ça se passe la semaine prochaine.